éduqué en français. Parce que c'est grâce à ton instruction, ton éducation, qu'on pourra lutter contre la France. C'est en la connaissant mieux qu'on pourra lutter contre la France. Et c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Parce que mon grand-père, bon, je n'ai pas eu la chance, mon grand-père paternel, je n'ai pas eu la chance de le connaître. Et donc, c'est quelque chose qui était transmis de père en fils, de père en fils. Donc, mon père, il avait une lourde charge. Hein. Parce qu'à l'époque, on instruisait que les garçons. Les filles, elles n'étaient pas instruites à l'époque. Donc, les garçons, c'était leur rôle, en fait, de défendre l'Algérie.
C'est pour ça, quand j'ai lu les passages sur votre grand-mère, j'ai été, qu'on dirait, pris au cœur. Parce que, on s'imagine... ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, faisant ce genre de choses aussi, participant à la révolution algérienne, et me dire, voilà, il n'y a pas que des hommes qui ont participé à cette révolution.
Il y a énormément de femmes. Elles sont pour la plupart méconnues, mais maintenant, on commence un peu à ressortir leurs portraits, on peut le voir, les Algériens s'en occupent, il y a beaucoup de travail de mémoire qui est en train de se faire dans tous les domaines, au niveau culturel, au niveau... je dirais patrimoine artisanal, tout ça est en train de renaître grâce à cette nouvelle génération qui est fière en fait de ses parents, de ses grands-parents et qui fait renaître cela. Je parle bien sûr de l'Algérie. Hein. En France, bon, il y a des communautés algériennes, mais bon. On ne sait pas très bien comment ils sont organisés.
Entre les Chiaouis, les Oranais, oui. Les Anjerrois, ouais. Les Kabyles.
Et c'est plus le cas en Algérie. Vous savez, à Oran, avant, on ne trouvait pas un Kabyle. Maintenant, si vous êtes en Oran, il y a des Kabyles dans le commerce. Hein. Ils tiennent des hammams, ils tiennent des boulangeries, des boucheries. Ils travaillent, ils s'expatrient, ils reviennent en Kabylie, un peu comme les Bretons à Paris. Hein. Voilà, et vice-versa, vous en avez un peu dans toutes les régions, des Oranais qui sont à Alger, qui vont dans le sud, qui commercent. Il y a en fait une Algérie différente aujourd'hui.
Parce que l'infrastructure aussi a permis de faire ça. Mmh. Je sais qu'une autoroute entre Alger et Oran a été construite il y a quelques années qui ont pu justement
rapprocher,
accélérer
les échanges.
Ouais. Les échanges, le train a été modernisé, des vols intérieurs sur le territoire ont été faits aussi. Donc tout ça aussi a aidé justement à que finalement les régions se rapprochent aussi.
Exactement, et surtout en ce moment, c'est beaucoup la région du Sud, les Touaregs, et ce sont des gens fabuleux. Hein. Idem pour Gardaïa, qu'on connaissait très peu à l'époque, c'était quand même une ville, je crois que c'est une des seules villes qui a résisté à la colonisation. Et à la fin, ils leur ont foutu la paix. Hein. Gardaïa, ils ont gardé leur tradition, et aujourd'hui, ils sont ouverts. C'est-à-dire, vous allez à Gardaïa, vous apprenez des choses que vous ignoriez hein, de leur culture. Et ça, c'est magnifique. Hein, parce qu'ils sont très cultivés et ils reçoivent très bien les touristes à Gardaïa.
Votre arrivée dans les années 70 à Paris, comment vous l'avez senti, vous l'avez vécu?
En fait, j'ai pas été trop dépaysée parce que bon, on connaissait déjà Paris à travers... les récits des pieds noirs où j'y allais quand j'étais gamine, on allait en colonie de vacances. Mais j'ai quand même remarqué une grande différence entre les Français de la métropole et ceux de l'Algérie. Ça n'a rien à voir. Et je n'ai pas ressenti le racisme en Algérie. En revanche, je l'ai un peu, pas beaucoup, mais un peu vécu en France. Mais après, bon, j'ai su comment il fallait faire pour ne pas le subir. C'est-à-dire que je n'ai jamais accepté d'aller dans un ghetto algérien.
C'est ça aussi, parce qu'il faut l'expliquer, c'est que les gens de ma génération, et en dessous, on n'a pas connu ça, nous. Mm. On n'a pas connu cette période où les Algériens étaient parqués dans des ghettos.
Oui, surtout à Nanterre. Hein. J'avais visité Nanterre parce que je savais qu'il y avait... il était encore le ghetto là-bas dans les années 70. C'était la fin, mais il faut voir Nanterre hein, comment c'était avant. Aujourd'hui, c'est super. Bon, tout a été rénové et c'est très beau. Mais autrefois, c'était comme à Barbès, comme certains quartiers comme ça. Bon, il y a encore des quartiers qui sont horribles, hein, comme Montfermeil. Mais c'est rigolo parce que Victor Hugo déjà parlait. Vous savez, il s'est inspiré des Français qui vivaient à Montfermeil à l'époque pour écrire Les Misérables. Hein. Donc il y a eu des Français aussi à l'époque qui vivaient comme les Algériens, qui ont vécu à Montfermeil au début. Hein. Aujourd'hui, je sais pas comment c'est. Au début, c'était vraiment Les Misérables. Hein.
C'est souvent la problématique, c'est qu'on passe d'une période à une autre. C'est pour ça que votre livre est intéressant, parce qu'on tombe aussi dans les années 60-70, en fait. Comme je vous l'ai dit précédemment, on pense souvent à 54-62. Et après, quand on parle d'Algérie, on pense aux années fin 89, début des années 90, où... c'est la barbarie s'installant en Algérie. Des professeurs, des écrivains, des chanteurs, Lahem Chebhesni, comme on dit, parce que lui aussi, il est mort sur les coups des terroristes de là-bas. Donc, cette culture-là nous aide, nous, nouvelle génération, et je parle à mon niveau, voilà, de dire, effectivement, il est important que des personnes comme vous nous raconte notre histoire.
Oui, moi je pense que le travail de mémoire est très important. Il y a tous les niveaux, c'est-à-dire que chaque Algérien peut raconter son histoire dans sa région, ce qui a pu lui arriver. Un Algérien d'Alger ou de Sétif ou de Batna n'aura pas le même parcours en fait. Hein, parce que les villes étaient cloisonnées à l'époque. Il n'y avait pas de... Il y avait que les commerçants qui pouvaient voyager d'une ville à l'autre, mais bon, moi je l'ai fait parce que mon père avait une voiture déjà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Et mon père aimait en fait nous amener, nous faire visiter ces villes, surtout Constantine, la Kabylie, l'Ouest.
On a parlé de Blida tout à l'heure, oui, hors micro.
Voilà, on allait faire du ski à Chérira, mais on était les seuls... arabes à faire du ski là-bas. Par exemple, les plages, c'était pas la culture des Algériens d'aller dans les plages. On n'allait pas se baigner. Nous, on était seuls sur les plages. Ça...
Non, si on voit les images de l'époque, on avait l'impression d'être sur des plages de Saint-Tropez.
Exactement. Et puis, il n'y avait pas d'arabes. C'était pas la culture, parce qu'ils étaient dans les terres, dans les fermes et tout ça. Et c'était... Voilà. Ils vivaient pas, en fait. Ils étaient dans leur maison. Voilà. Puis, ils connaissaient même pas leur pays. Hein.
Vous qui avez la chance d'avoir connu cette période, ne pensez-vous pas que si la France, ou du moins le pouvoir politique, avait accordé les droits pleins et entiers aux citoyens algériens, il n'y aurait peut-être pas eu de révolution?
Jamais il y aurait eu, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas apprendre à un être humain liberté, égalité, fraternité pour ensuite le discriminer. Ça, c'est pas possible. Parce qu'un être humain, bon, surtout bon, les Algériens, qui ont quand même une civilisation millénaire, hein, faut pas oublier, parce que les Algériens, c'est les Amazirs. Hein. Ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Amazirs. Ils ont conquis l'Espagne pendant 7 siècles. Ils ont une civilisation, ils ont une histoire. Ils ont quand même eu des grandes victoires, des grandes batailles. Donc on ne pouvait pas les réduire au silence. Donc c'était inévitable. Mais on aimait bien les Français. Les Français nous aimaient bien. Ils ont défendu les Algériens. Ils ont été présents. Ils ont compris leur souffrance. Ils ont sauvé beaucoup d'Algériens. J'en parle aussi dans mon livre.
Les porteurs de valises, toute cette
oui,
tradition-là.
Oui, voilà. Et donc, après, ça a été le lobby, en fait, des grands colons, comme on disait à l'époque, de l'argent, en fait. C'est ça qui a fait basculer, en fait, dans la terreur, hein, avec l'OS, hein, faut le dire. Et puis le FLN qui a aussi répliqué de son côté, parce que c'était impossible que ça reste à sens unique. Hein,
D'où le mot de déchirure, en vérité.
Exactement.
Une rupture.
Exactement. Ce que je voulais, en fait, aussi dans mon livre... On connaît la déchirure des pieds noirs, la perte de leur terre, de leur mort qui était enterrée là depuis plusieurs générations en Algérie, et ils avaient connu que l'Algérie. C'était vraiment quelque chose d'horrible hein, pour nous, Algériens de l'époque. Mais dans mon livre, je raconte la déchirure algérienne. Et ça, personne n'en parle. On est quand même des êtres humains. On a aimé des gens, on a grandi avec eux. C'était nos voisins. On ne faisait pas un couscous sans partager avec nos voisins. Pour l'Aïd, tout l'immeuble ou tout le quartier mangeait des gâteaux. Je veux dire, c'était le partage, c'était... On avait une vie exceptionnelle.
Et rappelons aussi, parce que c'est un sujet aussi de notre époque, qu'en Algérie, il y avait aussi des juifs algériens. Et que juifs, catholiques, chrétiens, musulmans ou athées s'entendaient parfaitement. Enfin, moi, c'est le récit que j'ai de mes grands-parents.
Oui, tout à fait. Hein. On avait, bon, les juifs... ils étaient médecins, ils étaient instituteurs, ils étaient commerçants aussi. Et ils parlaient arabe comme nous. On n'avait aucune différence. Et jamais j'ai entendu ma mère nous dire « Lui, c'est un juif, lui, c'est un français. » Non. On me disait « Tiens, amène les gâteaux à madame un tel. Amène... tiens, on a fait des banqueroutes, amène à monsieur un tel, etc. »
Et la preuve encore récente que l'Algérie n'a pas de ressenti, entre guillemets, envers la communauté juive, c'est qu'elle a accueilli Roger Alain sur ses terres.
Oui, moi je prendrai un exemple d'une amie pied noir que j'ai connue en France, qui était juive de Tiaret. Et c'est elle qui m'a raconté ça, puis à son âme elle est décédée aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de raconter cette histoire. Son père était de Tiaret, donc et quand il est parti, il a vendu son bien à un Algérien. Et l'Algérien lui a dit « Moi, j'ai pas assez d'argent, je t'enverrai tous les mois de l'argent. » Et c'est ce qu'il a fait. Tous les ans, dès qu'il avait fait un bon chiffre d'affaires, il payait son bien. Et plus tard, cet homme-là, il s'est marié à une personne très riche en France et il a voulu retourner en Algérie. Et ce commerçant à qui il avait vendu son bien était devenu préfet de Tiaret. Hein. Et il lui a dit « Tu viens, t'es le bienvenu, tu viens, t'amènes tous les juifs que du pays d'avant, tu les amènes, je viendrai avec un bus te récupérer à Oran. » C'est ce qu'il a fait. Ils sont revenus à Oran, il les a amenés, il leur a fait visiter les tombes de leurs ancêtres. Ils ont revu leur quartier. Ils pleuraient, s'embrassaient. C'était plus que de l'émotion. Et ça, c'est un exemple. Et c'était des juifs, que des juifs. Hein. Et ça, c'est un exemple que quand on est humain, il n'y a pas là de religion. La religion n'existe plus. C'est l'humanité qui compte, en fait.
La fraternité.
La fraternité. Après, pourquoi s'occuper de la religion des uns et des autres hein? Ce qui compte, c'est ce que vous apportez à l'un et à l'autre. C'est cette générosité, c'est cette honnêteté, c'est... voilà, tous les biens des Français n'ont pas été volés. Beaucoup d'Algériens ont acheté ces biens et les ont remboursés petit à petit.
J'ai même connu, moi, une histoire dans la ville de ma mère, à Blida, où une imprimerie était tenue par des pieds noirs, et encore au jour d'aujourd'hui, elle est tenue par la même famille, parce que la famille a voulu rester
oui.
sur le territoire.
Oui.
On a même connu, c'était souvent dans des reportages au début des années 2000, une dame d'un certain âge qui vivait encore à Oran, parce que pour elle, c'était sa ville.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'en ai connu une, à une époque, j'avais fait un tour de tous les pieds noirs qui étaient restés. Il y avait une dame qui était à Arzeux, elle avait un café. Elle est restée jusqu'à la fin, là-bas. Et elle avait l'habitude d'aller se baigner dans le port. Et elle allait se baigner à 80 ans. Elle était respectée par tout le monde. Elle était protégée. Et personne ne l'a touchée jusqu'à sa mort naturelle. Hein.
Le récit du livre n'en parle pas forcément, mais comment vous avez vécu la décennie noire ? Vous qui êtes une femme lettrée, libérée, qui aimait la culture.
Ben moi, je l'ai vécu, j'étais en France, hein, donc je suis allée en Algérie au début des années 90. C'était les prémices, en fait. Je l'ai, en fait, ressenti, parce qu'à ce moment-là, tout le monde s'était barricadé avec des grands portails. Et je me souviens, quand j'étais arrivée dans ma famille, je me souviens, des portails. En fait, il y avait 4 ou 5 verrous. On entendait clac, 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 clac. Et le fait de voir tous ces verrous, c'est ça qui m'avait fait peur. Parce que c'était concret. Puis bon, on m'a dit non, il faut se protéger la nuit, on sait jamais. Et je l'ai aussi vécu dans ma chair, parce que dans la famille de mon père, la plupart étaient des magistrats, donc des juges de paix, des avocats, et ils ont été massacrés, hein, parce qu'ils étaient francophones. En fait, on tuait tous les francophones.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on associait aussi, on voulait apporter l'ordre islamiste.
Et non, exactement.
Pas, et non pas musulman, mais l'ordre islamiste au sens littéral du terme, c'est-à-dire une espèce de pseudo-religion, parce que moi, je n'associe pas ça à l'islam. Sur des principes patriarcales, dogmatiques, d'un autre temps et d'une autre mœurs, en pensant que c'est la religion sainte, alors que c'est pas du tout ça, parce que c'est une boucherie.
Mais c'est grâce à l'armée, en fait. Vous voyez, donc, en fait, l'État algérien, c'est une démocratie. Il n'y a pas de... C'est pas une république islamique, c'est une démocratie, c'est par le peuple et pour le peuple. Voilà, ça, c'est la devise de l'Algérie. Et donc, l'armée, elle était pour le peuple. Et donc, ces islamistes, ils auraient pu vivre leur islam intégriste tranquillement dans leur coin. Voilà, il n'y avait pas de soucis. Mais le problème, c'était qu'ils voulaient une république islamique. Et ça n'a pas marché, parce qu'on n'est pas des Arabes, on est des Amazirs. Ça, je le répète. Hein. Et je crois que 95% des Algériens sont Amazirs.
Amazir, berbère.
Berbère, enfin, voilà.
Pour qu'on dire, parce que oui. C'est vrai que le mot amazir ne sort pas tellement souvent que du coup je précise,
oui,
je précise
berbère, en fait,
les deux mots.
Oui, berbère, en fait, bon, même si on ne parle pas le kabyle, le berbère, on a dans le sang du sang berbère, quoi. On n'est pas à 100% arabe, donc.
Et c'est surtout que, bah, comme vous dites, l'armée, elle a sauvé l'Algérie à cette période-là, sachant qu'il y a quand même eu un président algérien, il était président à ce moment-là, qui a été tué par une grenade. Alors que ce président-là était l'un des derniers membres fondateurs du FLN. Au moment de c'était, comment il s'appelle ? Et là, c'est étonnant que ça ne me revienne pas. C'était en 89, vous savez, au moment de... Ouais, non, bien après. Ben, c'était pas Boumedjian, c'était comment il s'appelle ?
Boudiaf.
Boudiaf,
ouais.
Il y a eu un attentat.
L'Ahmo.
Ouais.
Et c'est là où l'appareil a vraiment commencé à durcir, où l'armée a eu peur du fils, parce que c'était ça à l'époque.
Parce que c'est vrai que, bon... On a dit que ça avait été trafiqué, les élections, etc. Mais c'est ce que je dis. En fait, si vous êtes un parti, vous pouvez être un parti sans être un parti religieux. C'est ça. Je trouve que c'est pas honnête de mêler la religion à la politique. Parce que, bon, sachant que beaucoup de gens sont quand même encore illettrés, donc utiliser la religion pour accéder au pouvoir, je trouve pas ça très démocratique.
Et pour terminer cet entretien, si un jeune de 15 ans avait besoin justement de découvrir la mémoire de deux pays qui lui tiennent à cœur, franco-algérien, j'ai envie de dire français par la naissance du sol et par le fait que ses parents sont aussi français, mais aussi par ses origines algériennes, que lui diriez-vous ?
Ben moi je lui dirais d'honorer ses ancêtres et de ne jamais oublier la France. Parce que, il faut le dire, la France... C'est quand même une partie importante dans la vie des Algériens. Je parle des Français en général, je ne parle pas de la politique ou d'une certaine frange de la population française qui sont plutôt dans l'extrême. Mais les Français, ils aiment bien les Algériens. Et nous, on leur rend bien aussi. Ça ne se voit peut-être pas. Mais les Français aiment les Algériens et les Algériens aiment les Français.
Vous me faites penser à une anecdote. En cette période de Coupe du Monde, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement en 2006. J'ai eu la chance d'aller en Algérie, comme beaucoup d'enfants algériens à cette époque-là, pendant 2 mois. On a vécu la Coupe du Monde. Le soir de France-Italie, la finale, il n'y avait zéro Algérien dehors. Et la plupart de mes amis là-bas ne soutenaient pas l'Italie. C'est dire si l'attachement... On dit souvent, pour un franco-algérien, l'Algérie est ma mère, ouais. La France est mon père.
Ouais. Moi, j'ai rencontré des Français admirables. J'en parle un peu dans mon roman, j'en parle dans le deuxième volet de ma saga. J'en parle dans le troisième volet qui est en cours, qui n'est pas encore sorti. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai pu réussir en France. Hein. Donc, j'ai trouvé des gens admirables, sans acrimonie, des gens ouverts, des gens compréhensifs. Et si vous grattez un peu, je crois que beaucoup de Français ont des origines étrangères. Quand on le voit, par exemple, dans le monde culturel, hein, de la musique, par exemple, les artistes comme Johnny Hallyday, comme Sylvie Vartan, je parle de ceux de ma génération, ils étaient étrangers, ils n'ont jamais renié à leur pays. Hein. Sylvie Vartan a été en Bulgarie, elle aimait son pays, elle aimait la France, maintenant elle est aux États-Unis. Je veux dire, c'est normal qu'un Algérien puisse aimer l'Algérie et la France et peut-être d'autres pays s'il a aussi un ancêtre d'une autre ville ou de notre pays. Donc c'est quelque chose de naturel qu'on veut nous rendre en fait pas normal.
Alors qu'on a une histoire liée.
On a qu'une histoire liée, voilà. Moi, mon seul désir, mon seul objectif, c'est de créer des ponts entre l'Algérie et la France. Je pense que l'avenir d'une grande partie de la jeunesse française pourrait être formidable en Algérie. Il y a tellement de choses à faire en Algérie, je veux dire. Au lieu d'aller se perdre en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, l'Algérie, c'est l'avenir. Hein.
Ah oui, surtout qu'il y a des régions en Algérie qui sont magnifiques. On n'aurait pas l'impression d'être sur ce territoire tellement qu'on penserait qu'on est justement en Amérique du Sud, avec un côté exotique. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir... nous a fait l'honneur et le plaisir de participer à cette interview. J'espère que, chers auditeurs, ça vous plaira. N'hésitez pas à aller acheter l'histoire d'une famille algérienne écrite par Madame Zuleha Abba et bien sûr, les éditions Chouka qui ont réédité le livre. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Il y a plein de récits, il y a plein de beaux livres à lire. Et puis, retrouvez cette interview sur YouTube et Spotify. Et pour nous quitter, je vais vous proposer une petite chanson. Elle n'est pas française, mais elle raconte l'histoire d'un certain pays. Blady de Cheb Mami. À très bientôt sur les ondes du 99.1.
الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت روح لها صاير هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية قسنطين وسطيف العالية باليدين عرها في قلبي قد يلا هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعنوه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدر تعنوه
ما يقدرش عالنور هو اللي فوق كيف سهل وفرقك اللي قدرت عالنور الجزائر وليها وراني حوير هو بغيت أولك صاير هو الفك يستاهل وفقك ما يقدرش عنه هو بغيت الروح الحزواير هو الفك يستاهل وفقك ما يقدرش عنه هو بغيت الروح الحزواير